les longs formats et les ports. Les longs formats.
Jean-Paul Bouteiller, bonjour.
Bonjour.
Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio et les Bords et dans les longs formats. Aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble à l'histoire trop méconnue des femmes instrumentistes dans le jazz. Pour vous présenter brièvement, vous tombez amoureux du jazz dans les années 50, 60 peut-être, de Duke Ellington, de Count Basie, de Charlie Parker. Vous n'êtes pas particulièrement musicien, mais cette musique, vous la pratiquez tous les jours, que cette musique que vous chérissez et qui vous accompagne depuis longtemps. Vous organisez avec le Jazz Club de Savoie, avec le Jazz Club de Lyon, vous organisez donc des concerts et en 1980, une première nuit du blues à Vienne et puis l'année suivante, Jazz à Vienne donc, que vous cofondez. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université du Bourget-du-Lac dans le cadre du festival Jazzra et donc vous êtes sur le point de présenter une conférence qui s'intitule donc « L'histoire trop méconnue des femmes dans le jazz, des femmes instrumentistes dans le jazz ». Qu'est-ce qui vous touche, vous, avec cette histoire trop méconnue ?
Je crois qu'on va retrouver dans ce sujet un petit peu les sujets qui ont marqué toutes nos civilisations depuis longtemps, c'est-à-dire la difficulté pour les femmes de s'intégrer dans un certain nombre d'activités et surtout dans des activités de création. Je crois que dans le jazz, comme il a été question de la musique en général, de la littérature, de la peinture et d'autres arts créatifs, les femmes ont eu beaucoup de mal à s'imposer. Quand je dis s'imposer, c'est même être sollicité. Si on prend quelques exemples, dans la peinture, il faut attendre le 19e siècle pour voir réellement quelques peintres féminins émerger. En matière de musique, il faut attendre le début du XXe siècle pour voir des compositrices de musique classique être mis à l'honneur avec Nadia et sa sœur Liane Boulanger ou avec d'autres artistes. Et il en est de même pour le jazz où là, finalement, comme pour la musique, les femmes, on leur réservait le rôle de chanteuse, qui était un rôle un petit peu, par certains côtés, de figuration, comme dans la musique classique, où elles sont chanteuses d'opéra. Où on leur a toléré également quelques rôles sur certains instruments, qu'on disait plutôt réservés aux femmes. À la harpe, on ne s'est pas beaucoup battu pour empêcher les femmes de tenir cet instrument. Mais en ce qui concerne les autres instruments, ça a vraiment été une lutte. Je m'excuse, ma voix est vraiment éraillée à cause d'une bronchite. Donc, ça a été une lutte. Et cette lutte, ce qui m'a été intéressé, c'est de voir surtout les pionnières qui ont résisté et qui ont aussi marqué toutes les difficultés qu'elles ont eues. Parce que c'est déjà pas très facile pour une femme de faire son chemin dans un art créatif. Mais en plus, elle est sollicitée par des choix qui sont des choix de vie de famille, qui sont d'autres types de choix qu'ont connu ces pionnières. Et ça m'a beaucoup intéressé de voir un petit peu leur vie, savoir également et démontrer que c'était des femmes qui avaient un talent extraordinaire, qui ont été reconnues par certains musiciens. Si je prends une femme comme Mary Lou Williams, qui est un exemple, qui a été reconnue par Duke Ellington, qui voulait en faire sa principale collaborateur pour écrire, etc. Et c'est de voir comment, finalement, elles ont été rejetées aussi par les musiciens. Parce que il y avait une sorte de ségrégation qui s'est établie à ce moment-là, avec toutes les difficultés aussi liées au fait d'intégrer des femmes dans certains métiers. métier de jazz, c'est un métier qui s'exerce tard, dans des lieux qui ne sont pas toujours très simples, surtout au début du jazz où les lieux étaient des lieux interdits souvent, où sur les années qui ont suivi, le jazz était un phénomène de tournée, de longue tournée, où les femmes sont séparées de leur famille et créent un certain nombre de problèmes. Alors c'est valable dans d'autres métiers, bien sûr, mais ça a encore amplifié la difficulté pour les femmes de s'imposer dans ce domaine.
Ce qu'on sait peu, c'est que de très nombreuses femmes instrumentistes étaient formées dans les conservatoires, dans certaines universités, à l'image par exemple de Lovie Austin, que vous aimez beaucoup, pionnière elle aussi.
Oui, bien sûr. Mais il y avait quelque chose, c'est que à la fin du 19e et au début du 20e siècle, une certaine bourgeoisie noire s'installait et les jeunes filles, leur famille souhaitait leur donner une sorte d'instruction peut-être plus facilement qu'à leur garçon. Et la musique faisait partie de cette instruction qui était donnée, soit par l'intermédiaire d'écoles ou d'universités. Notamment les États-Unis avaient créé un certain nombre d'écoles réservées aux Noirs. Ces créations datent de la fin de la guerre de sécession, mais ont permis à un certain nombre de personnes de se former. C'est surtout les jeunes filles qui en ont profité. Et puis, l'Église a eu un rôle. C'est-à-dire, l'Église a formé un certain nombre de personnes, ne serait-ce que pour tenir les claviers ou l'orgue, pour accompagner les chants religieux. Et l'Église a eu un rôle très important, notamment les premières femmes qui apparaissent dans le domaine du jazz, souvent sont passés par l'Église pour leur formation.
J'aimerais bien qu'on s'attarde sur l'une d'entre elles, Lovie Austin, j'y reviens, pour son rôle de pionnière en fait. Pionnière à la radio, dans des émissions aussi plus tard en télé et surtout dans la direction d'un orchestre pour hommes. Elle s'occupait des arrangements, elle s'occupait vraiment du management presque et de la direction musicale et c'était nouveau.
Oui, Lovie Austin, c'est la vraie pionnière. Elle est peu connue, hein. Elle est peu connue parce que d'elle, on a quelques disques, très rares d'ailleurs. En plus, elle a fait toute sa carrière à Chicago. Elle n'a pas cherché à aller sur New York, etc. Lovie Austin, c'est une pianiste qui a accompagné un certain nombre de chanteuses de blues. C'est elle qui a accompagné les premières chanteuses de blues, comme Ma Rainey ou Ida Cox ou quelques autres. Elle était aussi une des premières chefs d'orchestre. Les femmes avaient il n'y a pas qu'elle, Lovie Austin, mais Lil Armstrong a été également dans le même cas. C'était peut-être les premiers musiciens de jazz, ou musiciennes de jazz, qui avaient des notions théoriques, parce qu'elles avaient fait un certain nombre d'études, et elles savaient écrire ou lire la musique, et elles étaient sollicitées pour faire des arrangements. Donc beaucoup ont été engagés par des orchestres, ça a été le cas de Lovie Austin, par l'intermédiaire de son mari qui avait également une troupe, on appelait ça les vaudevilles à l'époque aux États-Unis, c'est des troupes de théâtre, et qui étaient très populaires. Et Lovie Austin a été, grâce à ça, associée à une troupe de théâtre où elle écrivait la musique, elle faisait les arrangements, elle dirigeait un certain nombre les hommes qui étaient dans son orchestre. Et par là même, elle a aussi participé à des revues où elle était également sollicitée par les radios. Les premières télévisions ont été faites avec Lovie Austin. Malheureusement, on n'a plus d'images de ce passé et il nous reste seulement quelques fragments audio du talent de Lovie Austin, qui était une pianiste, je dirais, dans la lignée du piano stride, un petit peu influencé par des gens comme Jelly Roll Morton.
Man I love was there.
Thomas. Nous parlions donc de ces femmes pionnières. Il y en a aussi qui le sont, mais qui sont restées dans l'ombre de leur moitié. Je pense à Lillardine Armstrong, qui a largement modelé et en tout cas permis l'éclosion de la carrière de son mari.
Tout à fait, c'est elle qui a fait Louis Armstrong. Louis Armstrong était quelqu'un qui, quand il a débarqué à Chicago, d'ailleurs c'est elle qui le dit, elle a vu un homme qui était un peu rustre, qui ne savait pas parler, qui ne savait pas s'habiller, qui ne savait pas se coiffer, qui était un peu gros. Elle s'en est occupée, elle en est tombée amoureuse, et lui aussi, ils se sont mariés, et c'est la carrière de Louis Armstrong a démarré grâce à Lillardine, qui a transformé ce jeune homme qui avait finalement peu d'expression extérieure en quelqu'un de formidable qui a affiné son style de trompette, qui lui a permis de se présenter. En plus, Lillardine avait beaucoup de talent. Elle était pianiste, elle savait écrire et lire la musique, elle savait arranger.
C'est ça, elle a largement contribué à structurer
tout
sa
à fait.
Musique.
Mais elle est même allée plus loin parce qu'elle avait créé une maison de mode. Elle crée des costumes. Et même après le divorce des époux Armstrong, elle a continué à faire les tenues de scène de Louis Armstrong. Ce qui est à la fois émouvant, c'est que c'est vrai que ces deux êtres se sont séparés assez rapidement, mais ils étaient restés quand même assez unis. Et au début des années 70, 2 mois, je crois, après la mort de Louis Armstrong, il y avait un hommage à la télévision sur Louis Armstrong où elle était invitée. Elle est décédée pendant cet hommage au cours de l'émission de télévision. Les destins de ces deux êtres ont été associés largement. Louis Armstrong n'en fait pas tellement référence. Elle a écrit quelques mémoires là-dessus, mais c'est vraiment elle qui a fait la carrière de Louis Armstrong. Elle s'est totalement dévouée pour faire la carrière de Louis Armstrong. Et cette carrière a été décisive aussi dans l'histoire du jazz. C'est quand même Louis Armstrong qui a été le vrai ambassadeur de cette musique qui naissait, avec tout le succès qu'on a connu, succès populaire, etc. Et succès mérité aussi, parce qu'il n'y avait pas seulement que du people dans la carrière de Louis Armstrong, il y avait du talent. Et il y avait une volonté d'évolution de cette musique.
You're high, so am I. Let's be happy together. You blew me too. Let's forget about stormy weather. You've lost your baby and I've lost mine. I've got a nickel and you've got a dime. We'll drown our troubles in wine, so we'll be happy together. Why should we worry just because they turned us down? Come on, babe, let's yawn that we're nobody's clown. Now you can dance and I can sing. I've got the finger and you've got the ring. We get the parsons to fix this thing, so we'll be happy together.
Évoquiez à l'instant cette période d'intense créativité au niveau du jazz, une période qui a vu Marilou Williams l'accompagner et jouer un rôle aussi très fort en tant que catalyseur en fait de tous ces jeunes musiciens qui passaient par New York.
Bah, Marilou Williams, elle a une carrière qui est en plusieurs épisodes. Ouais. D'abord, il faut le dire, puisqu'on parlait de Lovie Austin précédemment, elle a été influencée par Lovie Austin qu'elle l'a vue en direct lorsqu'elle avait 7-8 ans au cours d'un concert qui se donnait à Pittsburgh, sa ville natale.
Et elle dit quelque chose de très fort sur elle.
Oui, tout à fait, en décrivant justement cette femme qui, je ne me souviens plus de la citation, mais elle décrit cette femme en disant qu'elle était très belle, le violoncelle était très belle, elle était au piano, elle jouait les accords de sa main gauche, de sa main droite, elle écrivait de la musique, et en même temps, elle dirigeait un orchestre masculin de 7 ou 8 personnes. Et elle avait été impressionnée, d'autant plus impressionnée que cette femme avait beaucoup d'élégance, avait des tenues un peu excentriques et menait une vie un petit peu de qui se voyait dans le cadre du milieu artistique de Chicago. Mais elle a été très impressionnée et elle conclut en disant que c'est Levy Austin qui lui a donné l'envie, le goût d'épouser cette carrière. Marie-Lou Williams a fait aussi une carrière elle a démarré très tôt, très jeune, puisque elle s'est mariée avec un musicien qui l'a emmené de son vers Kansas City dans l'orchestre d'Andy Kirk, et elle en est devenue la pianiste, mais également la directrice musicale de cet orchestre d'Andy Kirk, qui est un des grands orchestres du style Kansas City. C'était au même titre que Count Basie ou Benny Moten. Et après cette carrière où elle a écrit beaucoup d'arrangements, pas seulement pour Andy Kirk, puisqu'elle écrivait des arrangements pour Count Basie, pour Benny Goodman et même pour Duke Ellington.
C'est une superstar.
Oui, oui, mais qui n'était pas reconnue comme telle. Hein.
Les longs formats.
Elle est partie à New York, elle devait être embauchée par Duke Ellington, mais elle n'a pas voulu parce qu'elle était mariée avec un des trompettistes de l'orchestre de Duke et qu'elle avait déjà connu cette situation dans l'orchestre d'Andy Kirk, qu'elle ne voulait pas la revivre. Par contre, à New York, elle est arrivée à New York au moment où le bebop était en train de naître, dans les années 45-47. Et elle a eu un rôle assez important dans cette époque, puisque le couple qu'elle formait avec Carole Baker, dans leur appartement de New York, accueillait tous ces jeunes, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Thelonious Monk, etc. Et c'est un peu aussi chez elle que s'est formée cette nouvelle musique, qu'elle n'appelait pas d'ailleurs bebop, elle appelait ça Zombic Music.
Pourquoi ?
Eh bien, elle avait écrit une suite qui s'appelait Zombic Suit. Les musiciens souvent rejetaient un peu le mot jazz. Pourquoi ? Parce que le mot jazz était associé à un côté colonial et un côté un petit peu ségrégationniste. Miles Davis n'a jamais aimé parler du mot jazz. Même Duke Ellington avait quelques réserves. Nous, ça ne nous choque pas, ce mot est tellement passé. C'est un joli mot pour nous, mais il n'a pas d'autres connotations. Alors que chez les Noirs américains, il y avait quand même une connotation assez ségrégationniste. En plus, les Blancs s'en étaient emparés avec la mode swing, les grands orchestres, la danse. Et il y avait une sorte de, pas un rejet du mot, mais ils voulaient s'affirmer autrement. Et dans cette période, et même un peu plus tard, parce que de nos jours, il y a souvent un rejet de ce mot. Donc elle cherchait un autre mot, et pour parler de cette nouvelle musique zombique, il y avait un côté musique de l'au-delà. Enfin, je pense que l'origine avec zombie n'était pas étrangère. En plus, il y avait un petit côté vaudou qui régnait dans cet art de la musique. Mais elle a eu un rôle assez important.
Elle avait beaucoup d'idées neuves.
Oui, elle a eu un rôle assez important de catalyseur auprès de ses musiciens, mais elle n'en a pas profité du tout. Elle a été exclue par les médias, exclue par les autres musiciens. Elle avait quasiment pas de travail à New York. Et c'est d'ailleurs suite à ces cette déception un petit peu qu'elle est partie en Europe quelques années plus tard, espérant trouver un milieu plus accueillant pour sa musique. Elle a été malheureusement aussi déçue de ce côté-là.
Pourtant, Duke Ellington disait d'elle que Marie-Lou Williams est éternellement contemporaine.
Voilà, exactement. Et quand on analyse un petit peu et qu'on écoute son œuvre, c'est vrai parce que elle vient d'un milieu qui est le musical, qui est le milieu du blues, tout ce côté boogie. Elle jouait très bien le boogie ou des œuvres comme ça. Et par la suite, elle s'est adaptée à tous les styles. Et au cours de sa carrière, elle a joué avec des tas de gens, des gens très modernes. Elle a fait, je crois, un disque avec Cecil Taylor. Elle avait souvent des jeunes musiciens avec elle. En plus, elle a fini sa carrière un peu tristement pour des raisons de santé, des raisons un peu d'isolement. Mais quand elle est revenue aux États-Unis, elle s'est orientée dans l'enseignement. Elle a beaucoup enseigné auprès de jeunes. Et je crois que beaucoup ont apprécié. Et elle est revenue également vers la musique d'église.
Oui, avec une petite période mystique.
Elle a d'ailleurs écrit une œuvre pour le pape, je ne sais plus, le nouveau pape, je ne sais pas, œuvre qui a été très peu jouée, mais qui a été quand même jouée le jour de sa mort. Et c'était une œuvre pour le premier saint noir des États-Unis.
Mary Lou Williams' musical career began professionally at age 6, but as we discovered, she actually began playing at the age of 2. When we spoke with Mary Lou, she began by telling us how she happened to get such an early start.
It seems that I used to get in a great mess around the house when my mother was practicing, so what she did really was to put me on her lap while she was playing. She played an old-fashioned organ, so she said one day while she was pumping the organ, my fingers beat her fingers to the keyboard and began playing. And it must have been great because she ran out and got the neighbors to listen to it. And she would not get me a teacher or anyone to teach me. She had professional musicians to come in and play every night for me or every day or something. You see, jazz is such a great art. It cannot be taught out of books.
Avec toutes ces difficultés que rencontrent les femmes, qu'elles soient liées donc à leur vie privée, vie publique, à leur vie de musicienne, à leur intégration aussi, c'est très compliqué pour ces femmes musiciennes et instrumentistes de trouver des contrats, des engagements. Il y a une question aussi de mixité raciale, de mixité de sexe. Bref, ce qui explique que petit à petit, les femmes vont presque être obligées de se regrouper entre elles et vont donc former des orchestres féminins.
Exactement, c'était, il y avait une sorte de double ségrégation pour elles. Les lieux de spectacle, les clubs, mais même les autres lieux n'étaient pas équipés pour accueillir des orchestres mixtes. On sait qu'il faut des séparations de loges, etc., etc. Et la plupart des, notamment les clubs, n'étaient pas du tout équipés. Et du coup, on rejetait cette chose-là de façon très très ségrégationniste. Et effectivement, en plus, il y avait, ça, c'est une attitude qui est un peu générale, qu'on retrouve dans toutes les professions, c'est-à-dire que l'intégration d'une femme dans un milieu d'hommes gêne. Parce que, bon, surtout dans le milieu musicien, où il se raconte beaucoup de blagues...
Il y a un peu de jalousie aussi.
Voilà, c'était... Non, les gens n'aimaient pas, enfin... Ils pouvaient reconnaître le côté artistique, le côté créatif, mais finalement, passer une tournée de 2 mois avec une femme, c'était pas facile, ni dans les bus, ni dans les... Ça créait un certain nombre de problèmes. Et effectivement, les femmes avaient beaucoup de mal à trouver des emplois, et elles se sont regroupées. Et c'est vrai qu'à partir de 1925, on voit apparaître un certain nombre d'orchestres féminins, purement féminins. Il y avait derrière cela aussi un côté spectaculaire, il faut pas le négliger. Il y a eu beaucoup d'orchestres qui se sont formés. C'était une façon de présenter la musique de façon un peu plus légère pour certains, qui rappelle le film de Billy Wilder, Certains l'aiment chaud.
Not since Scarface so much action. Not since the Marx Brothers so much comedy. Not since the Seven Year Itch so much Marilyn. The best picture this year will also be the funniest.
Good night, sugar.
Good night, honey.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. But deedly 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 dum. Boop boop be doop.
Les longs formats.
Et les premiers orchestres qui ont existé étaient des orchestres qui ont été oubliés un petit peu, des orchestres aussi bien multiraciaux que blancs ou purement afro-américains. On a retenu peu de choses de ces orchestres, si ce n'est peut-être celui qui a été le plus connu à l'époque, qui s'appelle les International Sweet Earth of Rhythm, qui était un orchestre, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que il vient d'une école de musique qui s'était créée dans le Mississippi, qui était réservée aux familles nécessiteuses. Et il y avait beaucoup de personnes d'origine afro-américaine, mais aussi des latinos, etc. Et le directeur de cette école, pour un petit peu booster son école, s'était aperçu qu'il y avait des orchestres féminins, et il a créé un orchestre féminin dans ce cadre-là. Et cet orchestre, il a engagé des bons musiciens, dont Eddie Durham, qui était un très très bon arrangeur et instrumentiste chez Count Basie, et qui a finalement formé cet orchestre qui a eu beaucoup de succès à partir des années 30, enfin 35, 37, et qui faisait beaucoup de concerts, mais qui a quasiment jamais enregistré. Elles ont fait très très peu de séances d'enregistrement, mais elles ont eu énormément de succès pour animer des bals, pour animer des concerts, et également au moment de la guerre pour aller un petit peu soutenir le moral des troupes, puisqu'elles ont fait partie d'une tournée européenne à cette époque. C'était un très bon orchestre avec des très bonnes solistes à tous les instruments. C'était un très très bon orchestre qui était du même niveau que les Duke Ellington, Count Basie ou Jimmy Lunceford. Alors il y a eu quelques autres orchestres qui mettaient en relief quelques instruments. Il y a eu un orchestre appelé The Coquette qui mettait en relief la personne qui jouait de la batterie, qui était Viola Smith. Il y a eu cette mode des orchestres féminins s'est un petit peu éteint après la guerre.
Parce que les hommes sont rentrés du front et ont repris le contrôle.
I left my baby standing on the railroad track. Yes, left my baby standing on the railroad track. He said, you know I love you, I'll stay till you get back.
Oh, pas seulement, je crois que c'était surtout, il y a eu une crise économique qui fait que les grands orchestres n'étaient plus rentables, donc les orchestres féminins en ont subi, comme toujours, les premiers résultats. Mais il y a eu quelques subsistances. Actuellement, il y a encore quelques big bands féminins qui existent. Il y a un très bon aux États-Unis qui s'appelle Diva, qui est un tata bon orchestre. Il y en a un au Japon qui a fait l'objet d'un film d'ailleurs qui s'appelle Swing Girls. En France, il y a eu des tentatives, mais il reste, c'est pas sous la même forme, c'est pas, il y a plus cette volonté de créer des big bands uniquement féminins. Il y avait aussi le fait, hein, dès le départ c'était comme ça, mais ça s'est poursuivi. Les femmes se regroupaient parce qu'elles avaient du mal à trouver un job dans des orchestres masculins, mais il y a eu aussi l'inverse. C'est-à-dire que les orchestres féminins, quand il y avait quelqu'un qui devait être remplacé, elles avaient beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Et par exemple, à une époque de sa vie, Mel Ballistone avait, c'est aussi arrivé à Mary Williams, qui voulait avoir un groupe féminin. Et après le départ de quelqu'un pour une raison X ou Y, elle avait beaucoup de mal à ne pas à trouver une remplaçante. Et finalement, c'était un homme qui le remplaçait.
Our next guest is a jazz guitarist, one of the younger luminaries of the jazz world. She comes to us from Minot, North Dakota, by way of Joe Venuti's orchestra and that famous street of swing, New York City's 52nd Street. The tune is Rose Room and the soloist, Mary Osborne.
Il y a un point commun qu'on retrouve parmi toutes ces femmes instrumentistes, c'est une souffrance par rapport à l'attitude sexiste et au rejet en fait d'hommes. Je pense à Mary Osborne en fait, qui a au bout d'un moment, délaisser sa carrière de musicienne pour se tourner vers autre chose. En l'occurrence, elle a lancé un business de guitare, puisque c'était son truc à elle. Et elle n'est pas la seule du tout à avoir lâché la musique parce que c'était trop douloureux.
Oui, Mary Osborne qui avait une vie familiale en plus. Donc, Mary Osborne est d'origine totalement blanche aux États-Unis. Une super guitariste, je crois qu'elle avait, elle a découvert la guitare avec Django Reinhardt et Charlie Christian, et elle est devenue quelqu'un qui, au lendemain de la guerre, était certainement la guitariste la plus intéressante avant Wes Montgomery, avant tous les guitaristes qui sont arrivés derrière, ou Kenny Burrell ou d'autres, et elle était relativement sollicitée dans certains orchestres, mais beaucoup d'orchestres féminins. Elle a eu beaucoup de mal à s'imposer. Effectivement, sa vie familiale, prenant du temps, elle a préféré, à un moment donné, s'occuper d'une maison de fabrication de guitares. Elle avait une marque de guitare qui concurrençait les meilleures guitares de l'époque. Et elle a continué à vivre dans ce domaine et abandonner complètement le jazz. Mais c'est dommage parce que ça fait partie. Il y a quelques musiciennes comme ça. Il y a Mary Osborne à la guitare. Il y a Margie Iams qui était une vibraphoniste qui était à l'époque beaucoup plus connue que Milt Jackson et qui aurait dû avoir cette place-là réservée. Enfin, il y a un certain nombre de musiciennes plutôt qui finalement n'ont pas été. On n'a rien fait pour les retenir dans le monde de la musique. Alors c'est vrai que c'est un monde qui est difficile. Les orchestres multi-sexes sont assez difficiles à maintenir. Actuellement, c'est toujours le cas d'ailleurs. On voit relativement peu d'intégration. Ce qui explique que même maintenant, il y a les musiciennes sont leaders de leur groupe et ont les moyens de conserver ce rôle de leader. Sinon, en tant que sidewoman, si je peux me permettre, c'est très difficile.
Get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time's surely hot, pick up your guard in this crazy race.
Deux anecdotes très intéressantes que vous évoquez dans cette conférence, notamment en La première, en 1939, un journal qui publie un article avec une question et la réponse est édifiante.
Oui, c'était la principale revue de jazz aux États-Unis, Don't Beat, qui se posait la question, est-ce que le jazz peut être joué par des femmes? Et leur réponse à l'époque était non. Sans trop développer d'ailleurs le sujet, mais ça prouve quand même l'esprit, l'état d'esprit dans lequel vivait le monde du jazz à l'époque. Il y a une sorte de réponse à cette question par un journaliste appelé Leonard Fever, qui avait enregistré deux orchestres, l'un entièrement masculin, l'autre entièrement féminin, en utilisant les mêmes thèmes. Et le disque servait un peu de blindfold test pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il n'y avait pas de différence ni sur le plan stylistique, ni sur le plan qualitatif, etc. Beaucoup s'y sont laissés prendre, d'ailleurs, à ce blindfold test. Ce qui est assez drôle, c'est un peu le signe des temps, c'est que ce disque a été réédité il n'y a pas très longtemps. Alors, le titre du disque, c'était Cats versus Chicks, ce qui veut dire en argot les matous contre les poulettes. Il y a une ligue féminine qui n'a pas du tout apprécié qu'on réédite ce disque sous ce titre, en précisant qu'on n'avait plus à présenter les choses. Bon, je pense que le travail qui avait été fait par Leonard Fever ou ceux qui ont voulu rééditer le disque n'étaient pas du tout dans cet esprit-là. Et je crois que c'est dommage qu'on n'ait pas mieux encore utilisé ce disque pour montrer qu'il y avait dans l'orchestre féminin des femmes qui n'ont pas eu la carrière, qui ont eu les musiciens qui étaient en face d'elles, comme il y avait quand même Kenny Clarke, Oscar Pettiford, Horace Silver, Clark Terry, qui ont fait des grosses carrières, alors que Mary Osborne ou quelques autres qui étaient dans l'orchestre féminin n'ont pas connu cette chance.
Aujourd'hui, les femmes musiciennes dans le jazz leur font un pied de nez, puisqu'il y en a beaucoup, en tout cas beaucoup plus. Moi, instinctivement, je pense à Esperanza Spalding, qui est contrebassiste et bassiste de génie. Je pense à Hiromi aussi, qui est une très grande technicienne du piano japonaise. Il y en a de très nombreuses autres. Côté France, on pourrait citer R.L. Besson. On pourrait en citer d'autres, Joël Léandre, Sophie Allour, etc. Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont apporté au jazz, en fait?
Je ne sais pas. C'est très difficile de répondre à ces questions parce qu'il ne faut pas faire de ségrégation à l'envers. Je crois que Marianne McPartland s'est beaucoup exprimée là-dessus en disant que elle revendiquait de son amour de la musique. Si elle jouait comme un homme, eh bien, c'est parce qu'elle avait envie de jouer comme un homme. Si on lui reprochait d'avoir la sensibilité d'une femme, ça voulait rien dire, et qu'il fallait pas empêcher un homme d'avoir une sensibilité féminine lorsqu'il s'exprimait. Et je crois qu'il faut un petit peu rester sur ce registre. C'est-à-dire, je ne pense pas que il faille faire des différences entre les uns et les autres. Je pense simplement que ce qui est formidable, c'est que le milieu est ouvert et que ça apporte des possibilités de créativité aux uns et aux autres, de sensibilité peut-être complémentaire, mais actuellement, ce qui est très bien, c'est que les noms que vous avez cités permettent à des jeunes femmes de trouver quand même des modèles qui permettent à leurs parents, quand elles sont au conservatoire ou dans des écoles de musique, de percevoir que c'est possible.
Bien, merci beaucoup Jean-Paul Boutellier. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne conférence donc dans ce festival Jazzra et une bonne continuation sur les ondes du jazz.
Merci.
Nothing will take me away. The way you always call me with some question. In every
les longs formats.